Les rencontres du livre. Le livre sous tous ses aspects avec Yolande Simon et ses invités.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Claude Malon. Claude Malon, ancien enseignant, mais surtout historien. Et nous le recevons à l'occasion notamment de la sortie du livre « Le promeneur des non-lieux » qui est aux éditions des Falaises et nous allons en parler plus longuement. Claude, bonjour.
Bonjour Yolande.
Alors, vous savez, je sais que ça vous embête un petit peu de recommencer parce que vous êtes déjà venu sur Radio Albatros et on a déjà fait votre carte de visite. Mais enfin, en quelques mots, Claude, on disait tout à l'heure, en essayant les voix, qu'il y avait un petit accent méridional. C'est vrai ?
Oui, puisque je suis originaire de la Lozère et j'ai fait mes études à Montpellier.
Oui.
Mais je suis quand même havrais depuis une cinquantaine d'années maintenant.
Oui.
Et je me suis.
Donc, Waddeuf, vous avez pris un peu l'accent havrais aussi. Ouais. Qui est unique l'accent havrais, vous qui êtes historien, d'où il sort cet accent ? Il n'est ni cauchois, ni parigot.
Moi, je dirais plutôt qu'il y a plusieurs accents havrais.
Ah oui ?
Il y a vraiment l'accent du. Je dirais presque du monde ouvrier ou de la ville basse.
Oui.
Et aussi l'accent des gens de la côte.
Ah oui, oui, qui est peut-être un peu que plus j'ai, pointu, non ?
Oui, donc je parle un petit peu dans le livre.
Oui.
Dans le chapitre « Les statues meurent aussi ».
Oui, ah oui, très, beau, très, même, très joli titre.
Ouais, un peu emprunté à Jean Rouch, mais enfin.
Ah oui, ah, voilà. Ouais. Mais savoir emprunter bien, c'est faire preuve de création. Après tout, Brecht l'a fait beaucoup.
C'est vous qui le dites.
Oui, non, mais il le disait lui-même. Hein. Il disait lui-même que son art était aussi un art de piquer, après tout. L'opéra de Katsu, c'est quand même une œuvre du XVIIe siècle, si je ne me trompe. Mais revenons à Claude Malon, laissons Brecht tomber, si j'ose dire. Alors, donc, Claude, vous êtes de Lozère, vous avez vécu au Havre, nous avons été collègues.
Absolument.
Parce que ça, c'est très important pour les gens de Radio Albatros de savoir que nous étions ensemble au lycée Jules Le Seine. Et alors, justement, vous êtes curieux. Moi, finalement, je me moquais un peu des élèves qui allaient à Eugène Varlin ou à Jules Vallès et qui ne savaient pas qui c'était. Je disais, ils n'ont même pas la curiosité de savoir qui c'est. Et en même temps, je n'avais jamais eu la curiosité de savoir qui était Jules Le Seine, d'autant plus coupable que j'habitais rue Jules Le Seine. Et vous avez répondu à cette lacune.
Oui, dans le chapitre intitulé « Le diable du Calvados ».
Oui, mais en même temps, d'abord dans une thèse.
Non pas dans une thèse, mais dans mon premier livre d'histoire, si j'ose dire.
Puisque... Ah, je croyais que c'était votre thèse sur Jules Le Seine.
Non. Ma thèse, c'était « Le Havre colonial ».
Ah oui. Alors, vous avez d'abord donc parlé de ce Jules Le Seine.
Je dirais même, c'est comme ça que c'est en m'intéressant à la personnalité de Jules Le Seine que j'ai commencé une petite carrière d'historien.
Alors petit.
Et je le raconte d'ailleurs dans le livre.
Oui,
comment,
nous allons parler. Oui.
Comment, par une simple question d'un proviseur qui veut baptiser officiellement
Absolument.
Son lycée, parce qu'il n'avait pas de nom. Autant où nous étions collègues, le lycée Jules Le Seine s'appelait comme ça.
Parce qu'il était
rue Jules Le Seine, mais personne ne savait qui était ce personnage. Et donc c'est en me lançant dans cette petite recherche que c'est devenu un livre. Et finalement, j'ai repris goût, 25 ans après ma maîtrise à Montpellier, j'ai repris goût à l'histoire et à la plongée dans les archives.
Alors, petit mystère, Le Seine en deux mots, contrairement à ce qui est marqué dans la rue Jules Le Seine.
Oui, c'est... Hein ?
Bon, c'est assez fréquent, ces modifications orthographiques. Alors, justement, en lisant le chapitre qui y est consacré, parce que je n'ai pas lu le livre écrit sur Jules Le Seine tout entier, mais en lisant le chapitre, là, dont vous me rappelez le titre, là où vous parlez...
Le diable du Calvados.
Le diable du Calvados. Pourquoi le diable du Calvados ?
Parce que l'un des descendants, un arrière-petit-fils de Jules Le Seine, qui fréquentait les milieux du haut négoce... à la veille de la Seconde Guerre mondiale, m'avait raconté que quand il disait dans ce milieu-là qu'il s'appelait Le Seine, on le regardait comme s'il était le diable.
Ah bon ?
Et c'est vrai
le diable parce qu'il était radical.
Voilà, parce qu'il était radical, qu'il avait un programme.
Ou opportuniste à la Gambetta.
Même pas opportuniste à la Gambetta. Gambettiste, oui, sans aucun doute. Oui. Mais un programme assez radical.
Oui.
Pas véritablement socialiste, mais...
C'était les ultra-gauchistes de l'époque.
Oui, vraiment la gauche au temps de Napoléon III.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Et c'est un personnage finalement assez important qui est mort trop jeune pour avoir eu toute sa dimension.
Oui, qui est mort à 59 ans et qui a été quand même le premier député républicain du Havre. Mais qui est surtout intéressant par, je dirais, les traces qu'il a laissées de ses réflexions économiques et politiques qui sont tout à fait méconnues. Et la création d'un journal qui s'appelait Le Havre en 1868. Qu'il avait confié d'ailleurs au légataire universel des œuvres de Proudhon. Et donc, évidemment, Proudhon, c'était vraiment le diable pour les milieux conservateurs de l'époque.
Ça sentait le soufre.
Voilà, ça sentait le soufre.
Et ainsi, nous avons commencé, en quelque sorte, Claude a décliné un petit peu les différents chapitres de ce livre. Il y en a 16 en tout. Hein. Mais avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, dans le contenu... Parlons de la démarche. C'est une démarche très originale. Pourquoi ce titre, Le promeneur des non-lieux, c'est un peu étrange.
Je ne saurais pas trop dire comment l'idée m'est venue. Ça m'est venu plutôt comme une nécessité.
Eureka !
Voilà, une nécessité, me promener dans le Havre, ou plutôt rendre compte de mes promenades dans le Havre. Qui, à force d'être pour moi un objet d'étude, est devenu une sorte de seconde ville dans mon imaginaire. C'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui, c'est presque une prison, me promener dans le Havre sans m'arrêter parfois à tel ou tel endroit, qui n'est pas forcément un endroit très célèbre.
Voilà, d'où voilà. Le mot non-lieu.
Non-lieu. Et en me disant, voilà, là, tiens, je me souviens, j'ai trouvé dans les archives telle et telle chose, il s'est passé ça, tel personnage a vécu, et tout cela m'amène évidemment à dérouler à chaque fois le fil d'une histoire.
Il y a un minerai partout.
Absolument.
On a toujours tendance à voir bon, l'hôtel de ville, Saint-Joseph, je ne sais pas, les grands lieux, et à s'apercevoir qu'en quelque sorte, il y a une genèse, il y a une archéologie, en quelque sorte, que vous fouillez.
Oui, c'est une archéologie, effectivement, et qui se situe en dehors de la problématique des lieux de mémoire, voilà. Ou en tout cas des lieux de mémoire officiels. Évidemment, ce sont, comme je le dis dans le livre, mes non-lieux sont forcément des lieux.
Voilà, alors je vais vous attaquer là, Claude.
Allez-y.
L'objectivité de l'historien, où est-elle là? Et vous vous faites donner en pleine subjectivité là.
Avant de, je dirais, d'aborder cette question-là, qui est effectivement capitale, dans le projet, dans la démarche, comme vous dites, je dirais que cette notion de non-lieu, c'est une notion ou un concept, comme on voudra, que j'ai un petit peu aménagé à ma manière, parce que c'est un concept aujourd'hui, puisqu'il a été développé par un anthropologue qui s'appelle Marc Auger, qui a travaillé sur la notion de non-lieu, ou plutôt qui a établi cette notion-là en désignant par cela les espaces de la surmodernité. Alors pour lui, les non-lieux, ce sont les lieux où les gens sont anonymes, ne se rencontrent pas véritablement, qui n'ont pas d'histoire. Ce sont par exemple, les aéroports, les salles d'attente des aéroports, ce sont les parkings, les supermarchés.
Nos maisons à nous.
Voilà, mais chez nous, chez moi, enfin en tout cas dans ce que j'écris, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit au contraire de lieux qui ont une forte identité pour moi, parce qu'ils sont porteurs d'un passé, d'un passé parfois douloureux, parfois plus...
En ce sens-là, on ne revient pas à ce que disait Pierre Chaunu, qui n'est peut-être pas votre idole, je ne sais pas, historien Pierre Chaunu, qui disait absolument. Que se déclarer objectif, c'est soit être hypocrite, soit être un niais, et que l'objectivité était un idéal qu'on n'atteignait jamais.
Oui, moi je dirais que, pour avoir un petit peu réfléchi à cette question-là, évidemment, sur le métier d'historien, je dirais que je ne crois pas du tout à la neutralité de l'historien.
Voilà.
Je n'y crois pas du tout. Je crois par contre, non pas à son objectivité, mais à son effort d'objectivité, ce qui est tout à fait différent.
Alors sur cet effort-là...
Précisément, je crois que J'ai dit que c'était dans ce livre, j'avais essayé de me débarrasser des règles académiques du récit historique.
Oui.
C'est-à-dire que j'assume clairement que je fais intervenir ma subjectivité. Donc ce livre n'est pas un livre d'histoire. On est clair, je suis clair là-dessus. Ce n'est pas un livre d'histoire.
Je voulais vous couper, Claude, car nous dépassons le temps pour avoir notre petite pause musicale. Et nous allons reprendre ce débat après la première pause musicale.
عقلي ويهير بما يهمى أفير العبد أحس بما يهمى أفير عقلي ويهير بما يهمى أفير العبد أحس بما يهمى ثلي غار ذلك يجم ثغلي غار ذلك يملن يما يهمى ثلي غار ذلك يجم ثغلي غار ذلك يملن يما يهمى يدلاني لجزني هنزي ما يهمى وإذا هي قصان هني في ما يهمى يدلاني لجزني هنزي ما يهمى وإذا هي قصان هني في ما يهمى بتجلى نسج مالي من ثم سدينا عيت فلان يما يهمى أول نسن ذي الميزان يصعزل يصعل من يما يهمى تعجل الدنيا ثري قري لمان كل شي لا غيليف كل شي مدين منام تعجل الدنيا ثري قري لمان كل شي لا غيليف كل شي مدين منام يا باب تجديد أسد الهوية أود فانا صليف ديمة يا رنا يا باب تجديد أجد الهوية أود فانا صليف ديمة يا رنا
Claude Malon, qui vient de publier le livre « Les promeneurs des non-lieux » aux éditions des Falaises et qui est un historien, un historien tout court, bien connu. On parlait de l'objectivité. Avant, on va parler de ce groupe que nous venons d'entendre. Dites-moi un mot.
Oui, il s'agit d'un groupe havrais, le trio Gagny, composé d'un flûtiste breton, d'un chanteur et percussionniste kabyle et d'un guitariste havrais assez porté sur le flamenco et le jazz.
Qui est votre fils?
Oui, mais ça c'est accessoire.
Pierre.
Bien.
Et mais donc, Pierre est quelqu'un dont il faut parler. C'est quelqu'un qui a vraiment une vocation musicale importante. Oui. Hein. Et il faut quand même que le père laisse un peu la place au fils de temps en temps. J'en sais quelque chose moi-même.
Voilà. Et donc le morceau donc, s'intitule Tileli, qui signifie liberté en berbère. Donc qui
beau programme.
Raconte un petit peu le temps où la Kabylie vivait dans une certaine harmonie, où la religion restait à la place qu'elle devait, qu'elle doit avoir sans plus, sans dominatrice et terrifiante, et où les anciens avaient une parole qui était respectée des plus jeunes. Voilà.
Alors, nous avons commencé en quelque sorte à décliner les chapitres de votre livre. Je rappelle Le promeneur des non-lieux, donc Claude lui-même, et peut-être on va commencer à décliner un petit peu ces divers chapitres. Et je vous laisse le faire.
Oui, chaque chapitre est en quelque sorte l'occasion, chaque lieu décrit, d'ailleurs représenté par une photographie au début de chapitre.
Absolument, oui. Qui est faite par qui, la photo? Alors, par
les
vous.
Photos, c'est moi qui les ai faites, mais pas du tout dans l'intention de les publier.
Non.
Je les ai faites simplement pour moi, pour, dans ma démarche au moment de l'écriture.
Et après, c'est votre éditeur qui a trouvé...
Voilà, et c'est l'éditeur qui a choisi de les publier.
Oui.
Et donc, les chapitres sont en quelque sorte l'occasion de développer un thème.
Un thème
qui est évidemment toujours en relation avec des recherches que j'ai conduite. Sur lesquelles j'ai publié. Et chaque chapitre développe un aspect de l'histoire du Havre qui n'est pas forcément connu, parfois méconnu, souvent oublié et même parfois tabou ou complètement tabou.
Oui. Un peu une sociologie aussi en lisant votre livre.
Oui, c'est vrai qu'il y a une approche
diverses catégories des populations. Voilà. Hein. C'est pas tellement une histoire événementielle du Havre.
Non. D'ailleurs, ma formation d'historien, de ma petite carrière d'historien depuis un quart de siècle, est quand même très influencée par le fait que j'étais plutôt un historien économiste.
Oui.
Quand j'ai travaillé pour ma thèse sur le Havre colonial, le monde de l'entreprise, quand j'ai travaillé pour mon livre sur l'occupation et l'épuration et la reconstruction sur le monde de l'entreprise au Havre. Mais l'histoire économique est, contrairement à ce que les gens pourraient penser, quelque chose qui permet d'aller dans le concret.
Du
substrat historique.
C'est ce qu'on appelait temps du marxisme triomphant les infrastructures.
Oui, mais pas les grandes infrastructures au sens
juridique
du marxisme vulgaire, je dirais, mais plutôt le concret.
Oui.
L'histoire,
les échanges,
plus exactement l'histoire vue d'en bas.
Parce que le Havre,
l'histoire vue d'en bas.
Certains chapitres l'évoquent sans doute, le Havre est une ville de commerce.
Oui, alors par exemple, le chapitre intitulé « Les statues meurent aussi ».
Oui, très joli titre.
Emprunté à Jean Rouch, évidemment. Et c'est un chapitre qui nous permet de nous promener à partir d'une villa abandonnée, sur la rue de Félix-Fort.
Oui.
Dans la rue Félix-Fort, et d'évoquer l'âge d'or du négoce à travers quelques grandes figures du négoce havrais, et d'un monde qui, je l'avoue, m'a beaucoup intéressé aussi bien pour l'histoire du négoce colonial que l'histoire du négoce en général, avec des personnages qui m'ont, je dois le dire, assez fasciné. Je ne suis pas du tout de ce monde-là, mais c'est un monde qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup fasciné.
Qu'on retrouve dans les grandes figures politiques, non ?
Oui, pour certaines, comme Jules Siegfried, par exemple.
Oui,
bien sûr.
Ces personnages de la bourgeoisie qu'on retrouve dans Boulevard Durand, d'Armand Salacroux, par exemple.
Oui, et qui sont nommés à juste titre les messieurs de la Côte. La Côte étant l'ancien nom de la rue Félix-Fort.
Oui. Justement, une catégorie de population dont vous parlez beaucoup, c'est ce milieu portuaire, et c'est notamment les dockers, par exemple, et les syndicats des dockers.
Oui, j'en parle dans un chapitre intitulé « Le village des métallos ». Et les métallos ne sont pas des dockers, évidemment, mais c'est l'occasion de parler un petit peu de ma vision du monde ouvrier, en croisant à la fois ce que je sais ou ce que j'ai appris dans mon métier d'historien sur cette société havraise, celle du bas, par rapport à celle du haut que j'ai évoquée dans l'autre chapitre. Et il se trouve qu'au Havre, en plus, il y a une espèce de ségrégation verticale, géographique, les messieurs de la côte et puis les gens d'en bas.
Oui.
À partir de ce non-lieu, de ce lieu peu connu qu'est cette rue des Chantiers dans le quartier des Neiges, de ce bistrot Le Village.
Ce manichéisme un peu havré, j'ai écrit quelque part que la ville est manichéenne.
Absolument, oui. Vous avez raison, oui.
Et bien, si vous voulez, nous allons faire une deuxième petite pause musicale.
And children, Fukila Save, efface mon passage. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. Shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper.
Thank you.
sommes toujours avec Claude Malon, historien qui vient de publier Le Promeneur des non-lieux. Et nous venons d'entendre Leonard Cohen. Inutile de présenter Leonard Cohen, mais le chant, c'est celui qui est un hommage aux partisans. Et vous en parlez, des partisans et des résistants dans ce livre.
Oui, j'ai voulu consacrer un chapitre de ce livre à partir de la place Jean de Brozec à la résistance au Havre. Et je l'ai intitulé ce chapitre « Partisans ». Donc, c'est vrai que...
Alors, on les a beaucoup caricaturés pendant Vichy, ces résistants. J'ai vu dans les journaux de la collaboration, on les traînait dans la boue.
On les traînait dans la boue, on mettait en doute leur capacité intellectuelle. Évidemment, ils étaient traités de terroristes.
De petits délinquants.
Petits délinquants, ouais. On disait même qu'ils étaient salariés à plein temps pour commettre des attentats. Bon, évidemment, cette histoire de la résistance à Vraise, elle est assez mal connue, il faut le
elle
dire. Il y a eu très peu de publications sur ce sujet. Et c'est resté un sujet assez délicat, assez conflictuel aussi, dans la mesure où, au Havre, il y a une mémoire de cette période-là. Je dis bien une mémoire, pas une histoire, mais une mémoire qui est effectivement conflictuel. Je dis au passage que je ne crois pas du tout à la mémoire collective, même si c'est un beau concept de Maurice Holvax. Je crois plutôt aux mémoires de réseau, aux mémoires de clan. Et c'est vrai que pendant des décennies, on a peint en rose, en quelque sorte, cette période de l'occupation.
Oui, ce qu'on a appelé le résistentialisme.
Pas au Havre, en France, dans le cadre du roman national. Mais au Havre, il y a une spécificité quand même, c'est que nous avons un maire qui est nommé par Vichy, et qui, Pierre Courant, et qui, en 1945, alors qu'il est inéligible, est élu quand même, et deviendra effectivement à nouveau maire du Havre, alors qu'il a été le maire de Vichy.
Parler un petit peu justement des forces économiques sous l'occupation, dont vous avez déjà édité des livres sur ce sujet.
Oui, bien sûr, je consacre un chapitre intitulé « Regelbo 621 » à la construction du mur de l'Atlantique, et à la participation des entreprises havraises à ces bonnes affaires du mur de l'Atlantique, et en y disant certaines choses qui sont tout à fait méconnues, et notamment la volonté des vichistes et de Pétain en particulier de participer à cette construction. Et effectivement, j'assume mon point de vue. Je ne l'ai pas fait dans mes livres d'histoire, mais là, il s'agit effectivement pour moi de dire « je », d'entraîner le lecteur avec moi dans cette subjectivité qui est effectivement totalement assumée, ce qui fait que effectivement, ce n'est pas un livre d'histoire, mais le livre d'un historien. Et de dire très clairement, en toute transparence, le rapport intime que j'ai à cette histoire. Et par exemple, sur la question aussi bien de l'épuration, du mur de l'Atlantique, de la collaboration, du nombre incroyable de collaborateurs, de pro-nazis, de collaborationnistes, de pro-hitlériens qui existaient au Havre dans cette période, eh bien, je ne cache pas mon sentiment.
Vous savez, Claude, comme il nous reste peu de temps, je vais vous laisser la parole pour dire un petit peu les chapitres auxquels vous tenez, qu'on n'a pas abordé, quelques chapitres qui vous paraissent aussi importants. Je vous laisse un peu décliner quelques chapitres.
Oui, j'ai bien aimé écrire, évidemment, l'histoire des invisibles cargaison, qui est... une sorte de synthèse de l'histoire de la traite négrière, du rôle du Havre dans la traite négrière à l'époque moderne. J'ai bien aimé parler aussi d'un personnage qui s'appelle Gilbert Vieillard, qui est un administrateur ethnologue en Afrique, le meilleur spécialiste de l'histoire des Peuls. J'ai évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai traité le chapitre sur la spoliation et l'extermination des Juifs du Havre, que j'ai intitulé « Être ou ne pas être ». J'ai mis beaucoup de mon histoire personnelle et de mon enfance et de mon adolescence dans le chapitre consacré aux partisans.
Oui, et j'ai beaucoup aimé aussi votre dernier chapitre où vous évoquez votre enfance dans la Lozère, qui est vraiment très joliment écrit, parce que vous êtes un écrivain aussi, Claude.
Eh bien, écoutez, j'ai ce chapitre intitulé « Loin de Ryotor ».